séminaire intéressé aux mobilisations collectives qui a suscité la psychiatrie genevoise. Et je m'y suis intéressée parce que c'est dans ce contexte qu'a émergé en fait la première association des usagers en santé mentale en Suisse romande, qui est la DUPSI, l'association pour les droits des usagers en psychiatrie. Alors, personnellement, j'ai une formation d'anthropologue et j'ai maintenant une thèse en sociologie, et ça veut dire que j'aborde ces archives bien sous cette perspective, mais avec cette perspective de sociologue. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans ces archives, c'est de comprendre comment des associations, des mouvements se créent et se transforment au cours du temps. Je m'intéresse à ces associations qui sont créées à partir des années 70, mais aussi à celles qui se sont créées par la suite, y compris aujourd'hui, et qui continuent à militer, à interagir avec la psychiatrie. En tant que sociologue, j'essaye aussi de mettre en lien ces archives, ces documents avec des entretiens, avec des observations, donc avec différents matériaux. En même temps, le but de ma présentation ce soir, ce sera vraiment de me focaliser sur les archives pour mettre en évidence sa richesse surtout. Et puis, je vais essayer d'abord de vous donner un tout en bref aperçu de ce qu'on peut trouver dans ces fonds d'archives en lien avec la psychiatrie ici à Genève. Et puis ensuite, je vais essayer de donner un aperçu de ce qu'il y a dans ces fonds, mais par le biais de ce que j'appellerais deux morceaux choisis, ou ça deux moments, qui me permettront en même temps de commenter certaines archives que je vais vous présenter là, mais que vous avez aussi en partie sur les murs ici ce soir. Bien sûr qu'une partie d'entre vous connaissez cette histoire-là parce que vous l'avez vécue, parce que vous y avez participé peut-être. Alors bien sûr que vous la connaissez mieux, vous la connaissez plus précisément que moi. Pour moi, il s'agira surtout de montrer l'importance que des documents comme ça peuvent représenter pour un travail de recherche et de souligner en même temps l'importance de continuer d'alimenter ces fonds, de ces archives et en même temps de soutenir l'excellent travail des archivistes. Et je profiterai de cette occasion qui m'est offerte pour remercier l'association et les archivistes qui travaillent dans ces archives parce que j'ai eu un accueil tout à fait agréable, mais aussi plein de conseils, plein de petites aides qui fait que quand on n'est pas très familier avec les archives, je peux vous assurer, si vous connaissez bien les archives, vous êtes très bien accueillis et tout se passera bien. Voilà. Alors, je vais commencer donc par un petit aperçu des fonds. Bien sûr, la particularité des fonds qui sont conservés dans ces archives, c'est qu'ils donnent accès à un matériel presque ailleurs dans d'autres sites d'archives, comme dans les archives cantonales, les archives des hôpitaux, c'est-à-dire des archives publiques. Les archives contestataires, vous savez, contiennent des documents sensibles qui sont des traces, des travaux préparatoires pour les luttes qui ont été menées pour contester les institutions psychiatriques, mais aussi pour tenter de développer des nouvelles expériences, des nouvelles voies, pour chercher des alternatives à ce que c'était la psychiatrie de l'époque. Alors, je ne vais pas énumérer la liste des fonds conservés dans les archives, vous la trouvez facilement en fait sur le site de l'association, mais préciser simplement qu'il y a des fonds qui sont presque exclusivement consacrés à la psychiatrie et aux différents mouvements antipsychiatriques aussi, et que d'autres fonds, en revanche, contiennent des éléments relatifs à la psychiatrie, mais aussi contiennent plein d'autres documents relatifs à des autres mouvements post-68, les mouvements féministes, antinucléaires, etc. Et ça veut dire aussi que c'est très intéressant quand on va dans ces archives parce qu'on voit bien la pluralité des engagements et que très souvent, bien les personnes qui livrent ces documents étaient elles-mêmes, en tant qu'acteurs de ces années-là, très engagées dans différents mouvements et donc sur différentes thématiques. Le contenu des fonds, pour avoir une petite idée, j'ai pas épluché chacun des documents pour voir si les documents sont antérieurs ou postérieurs, mais disons, grossièrement, il me semble que l'on peut dire que la période qui est souvent décrite dans auquel se réfèrent ces documents, c'est la période qu'on décrit souvent comme une période d'âge d'or du militantisme, donc les années 68 au sens large, ça veut dire plus précisément les années 70 aux années 80. Début des années 80, qui correspond, et on s'en rend vite compte quand on feuillette ces documents, correspond à une période particulièrement mouvementée de l'histoire de la psychiatrie à Genève. Charles Reinberg, d'ailleurs, a fort bien écrit ces événements-là dans un des articles qui est à votre disposition ici, si j'en ai aussi sur la table. Un fonds est aussi consacré essentiellement aux luttes menées pour défendre les droits des patients en psychiatrie, et celui-là il recouvre une autre période, alors aussi le tournant des années 80, mais aussi les années qui vont suivre jusqu'à environ les années 2000 pour l'instant sans doute. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ces archives ? On a trouvé plein de toutes sortes de documents. On trouve de la correspondance, des journaux, des bulletins d'associations ou de collectifs, des articles de presse qui sont découpés, des publications. On trouve aussi des documents, de travaux préparatoires pour constituer des nouveaux collectifs ou des nouvelles associations. J'ai listé ici une série d'organisations et collectifs, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner une petite idée un peu de à quelles associations et collectifs principaux est-ce que ces documents renvoient. On trouve aussi des documents qui sont directement investis dans les luttes contestataires, ça veut dire des affiches, des tracts par exemple, et des communiqués de presse. Et puis, on a aussi des documents tout à fait intéressants d'une autre nature, qui sont par exemple des poèmes, ou des témoignages d'usagers et aussi de professionnels qui, les usagers et les professionnels, ont une expérience à ce moment-là des institutions psychiatriques et qui portent un regard critique sur son fonctionnement et sur ces expériences-là. Cette liste, elle est évidemment pas exhaustive, ça donne juste un petit aperçu. Ce qui m'a frappé, moi, très personnellement, peut-être aussi parce que je suis pas une grande, une très grande familiarité avec les archives, mais malgré tout, c'était une variété de documents, mais en même temps peu d'objets, relativement peu d'images. On en a quelques-unes, mais pas énormément, aucune photo. Et pas de matériel audio, ça veut dire pas d'enregistrement vidéo ou radio. Il y a sûrement aussi des raisons à cela, mais on pourrait en discuter après si ça vous dit. Une petite remarque sur les différents collectifs ici, évidemment que la particularité aussi dans ces années-là, c'est qu'il y a une foule de collectifs qui se constituent très rapidement autour d'événements qui sont relativement éphémères, et donc là, évidemment, on n'a que quelques-uns principaux, mais on va le voir avec quelques archives, il y a plein d'autres collectifs qui se constituent à l'occasion. Les morceaux d'archives et l'histoire que je vais présenter maintenant sont en fait deux exemples qui renvoient à deux événements qui ont suscité des mobilisations importantes dans l'histoire de ce mouvement. Ces archives, elles permettent de mettre en évidence, je pense, la tonalité, donc vraiment le ton de ces contestations durant les années 70-80. Et puis, elles donnent quelques informations sur la manière dont les mobilisations sont constituées autour d'événements et sur les formes qu'elles ont prises. Ces événements sont importants dans l'histoire de la psychiatrie genevoise, et évidemment, en même temps, ils ont un sens d'autre. Si je les ai choisis, c'est parce que les archives à disposition permettent de les documenter, et puis qu'elles permettent aussi, à mon sens, de montrer comment ces mobilisations elles sont construites et comment elles ont gagné en ampleur. Dans ma présentation maintenant, j'ai choisi de ne pas suivre un mode purement linéaire, donc je vais vous parler d'une première situation dans les années 80, puis ensuite on va remonter un tout petit peu dans le temps. J'ai aussi à l'idée, à l'esprit, de vous montrer un petit peu d'abord un moment clé où il y a une mobilisation forte, où il y a une tonalité, vous allez voir, assez forte. Et puis, on arrive un petit peu en retour dans l'histoire, bien de voir aussi comment ça se fait qu'à un moment donné, une mobilisation se constitue, et puis que, plus tard, eh bien, la mobilisation est si importante. En même temps, je ne vais pas vous faire une histoire complète, c'est l'histoire de la psychiatrie, évidemment. Alors, ce premier document, c'est une affiche qui date de 1980. En noir blanc, on voit donc un portrait d'un homme de face, qui porte des lunettes, qui a un peu de cravate, qui est relativement sérieux. Au-dessus de lui, une inscription en noir et blanc aussi, à Bel Air, l'isolement et les médicaments ont tué Alain. Et puis, au niveau du buste, on a une inscription en rouge, que vous voyez aussi, puisque l'affiche est ici. Cette inscription, c'est Tissot, inculpation. Alors, sur l'original, on voit que cette inscription, Tisson Acculapation, elle est faite avec un matériel brillant. Et après, juste avant, c'est une sorte de sérigraphie. En fait, je trouve intéressant, c'est les petits détails. Ça fait des choses qui peuvent paraître des petits détails, mais c'est très frappant l'effet que ça fait aussi quand on voit ce genre de document. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes tous très familiers avec l'histoire de la psychiatrie genevoise, mais peut-être pas. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, il est utile d'indiquer d'abord que Bel Air, eh bien, c'est l'ancien nom de l'hôpital psychiatrique de Genève, qui s'appelle aujourd'hui Belidée, et qu'en 1980, Bel Air fait déjà depuis de nombreuses années des vives contestations. Il faut aussi ici dire que Alain, qui est Alain, eh bien, c'est un patient qui est interné en 1980, juin 1980, sur un mode non volontaire, et interné à l'hôpital de Bel Air, puis placé en isolement et soumis contre son gré à une cure de sommeil. Il meurt 2 semaines plus tard, le 29 juin 1980. Alain, c'est aussi surtout l'un des membres actifs de la DUPSI, l'Association pour les droits des usagers. Cette affiche, elle dénonce les éléments qui sont tenus pour responsables de la mort d'Alain, donc l'isolement et les médicaments, et puis elle désigne un coupable, Tissot, et réclame son inculpation. Le professeur René Tissot est le directeur médical de la clinique depuis 1976 et l'est jusqu'en 1982, sauf erreur. Il est critiqué depuis plusieurs années pour ses conceptions biomédicales de la maladie mentale, et pour son adhésion à différentes thérapeutiques biomédicales, parmi lesquelles les thérapies de choc, dont les électrochocs, et les neuroleptiques à forte dose. Suite à la mort d'Alain, l'émotion est bien sûr vive, et la révolte contestataire atteint son plus gros point. Les personnes qui se mobilisent dans la DUPSI et plus largement dans la critique des institutions psychiatriques à Genève utilisent différents moyens pour faire entendre leur point de vue et leur position dans l'espace public. Il s'agit de provoquer les discussions, de réveiller les consciences, de mobiliser. Celles et ceux qui s'engagent dans la critique font usage donc d'un langage contestataire et d'une créativité qui est quand même assez caractéristique des années 68. Les affiches sont destinées à des affichages sauvages, à des tracts, et les autocollants ou autres sont destinés à interpeller, à faire parler d'eux, à marquer des positions critiques vis-à-vis des institutions psychiatriques. Donc on en trouve une partie de ces documents dans les archives et certaines de ces documents-là sont distribués suite à la mort d'Alain pour mettre en cause et interpeller notamment les professionnels qui travaillent dans la clinique. Elle dénonce... Donc, elle dénonce les pratiques de certains professionnels et le pouvoir qui leur est rattaché. Ici, vous avez aussi une grandeur différente de chacun des hommes qui est dessiné ici. Elle renvoie donc à leur hiérarchie aussi médicale et met en cause leur pouvoir, leur culpabilité, leur participation à la mort d'Alain. Ces traits qui doivent interpeller d'autres professionnels, les infirmiers et les infirmières notamment, afin qu'ils se questionnent et remettent en cause leur propre rôle et leur propre fonction dans cette organisation pas simplement hiérarchisée de l'institution psychiatrique. Donc le discours des professionnels qui s'engagent dans la DUPSI et des membres de la DUPSI procède d'une critique radicale des institutions psychiatriques. À Genève, c'est une époque où, ailleurs en Europe aussi, cette critique s'est nourrie des travaux d'historiens, de sociologues et de psychiatres, parmi lesquels Michel Foucault, Erwin Goffman, Robert Castel, Franco Basaglia, Giovanni Gerlis. Elle s'inscrit plus largement dans la remise en question des années 68 des institutions, plus généralement, telles que l'armée, la famille, la prison. Dans cette critique radicale de la psychiatrie, l'institution psychiatrique, ici Bel Air, est associée à l'institution carcérale, ici la prison de Chambellan, et les outils, ou plutôt les armes, justement, de la psychiatrie sont associés à ceux du milieu carcéral, le tabassage et l'enfermement. L'interpellation des infirmières et des infirmiers qui les associent à des gardes-chiums suit en cela le même mode d'assimilation donc des gardes dans le milieu carcéral au questionnement ici à l'interpellation donc des infirmiers et des infirmières. J'en viens maintenant au deuxième événement et aux différents documents d'archives dont on dispose. Pour, comme je l'ai dit en introduction, ce que j'aimerais aussi par là, c'est un petit peu montrer comment les événements, il y en a eu d'autres, mais comment les événements à un moment donné vont produire des mobilisations et donc des solidarités qui vont se retrouver aussi plus tard, par exemple autour de la mort d'Alain, sur laquelle je reviendrai en conclusion. Donc à partir du milieu des années 70, ici à partir de 70, pour les différents cas dénoncés à partir des années 76, c'est la question de l'internement psychiatrique qui est soulevée dans l'espace public. En juin 1977, une manifestante est arrêtée au cours d'un rassemblement antinucléaire à Gusgen, puis internée à Bel Air, où elle subit une série d'électrochocs contre sa volonté. Un an auparavant, une tentative d'internement d'une commerçante du quartier de Saint-Gervais et l'internement d'un étudiant en droit avaient déjà fait l'objet de dénonciations dans l'espace public et suscité des mobilisations de différents groupes de citoyens. Comme on peut le lire sur ce communiqué de presse, on voit ici, je vais essayer de le mettre au plus grand, je ne sais pas si vous arrivez à lire dans le troisième paragraphe, sinon je vous le lis en tout cas.
Effectivement.
Donc, un collectif déjà va se constituer autour d'Alain et pour demander sa libération, qui est le comité pour la libération d'Alain. Et puis ce comité, il va être appuyé par d'autres collectifs et militantes, donc par, et là je cite, des femmes du Centre Femmes, par le comité contre la répression psychiatrique, par le réseau roman d'alternatives à la psychiatrie et par le comité contre Verbois nucléaire. Donc ce qu'on voit dans le cadre de l'internement, c'est comment d'autres collectifs qui se mobilisent autour d'autres thématiques, ici par exemple autour du nucléaire, vont aussi se solidariser et se mobiliser autour de ces situations-là. Dans le cas de l'internement d'un jeune étudiant en droit, ce sont par exemple des étudiants en droit qui, à ce moment-là, vont aussi se mobiliser. Donc, par le biais de ces dénonciations, de ces internements, les mobilisations vont aussi tendre à s'élargir et à gagner en importance. Un autre élément que j'aimerais faire remarquer, c'est l'importance que prend dans ces années-là, et par le biais de la dénonciation de ces internements, le droit. Que ce soit dans la contestation des institutions psychiatriques, donc comme outil pour lutter et contester l'institution, et à la fois comme thématique, évidemment, parce qu'il s'agit aussi de défendre les droits de ces personnes-là. Il s'agit de défendre, par exemple, un accès à l'information médicale, au dossier médical, au choix des traitements aussi, et puis au consentement éclairé en matière de recherche. À l'occasion de l'internement d'Anna, vont également se cristalliser des tensions entre psychiatres et soignants sur la manière de concevoir la maladie mentale et ses traitements. La psychiatrie, vous le savez, elle est constituée elle est composée de différentes approches, par exemple des approches psychanalytiques, systémiques, biologiques, sociales, qui sont autant de manières d'envisager différemment la maladie mentale et bien sûr aussi la façon d'agir sur la maladie mentale ou plus largement les problèmes de santé mentale. Durant les années 70, les débats sur ces sujets sont vifs à l'intérieur des institutions psychiatriques genevoises et différentes alternatives sont expérimentées, parmi lesquelles l'approche de la communauté thérapeutique. En 1973 déjà, alors que le professeur Tissot n'est pas encore à la tête de Bel Air, les médecins assistants et chefs de clinique adressent une lettre à la direction pour l'interpeller sur la valeur et les conditions éthiques dans lesquelles les recherches biologiques et pharmacologiques sont menées. Lorsqu'un abbé est interné en 1977, le professeur Tissot, qui entre-temps est à la tête de Bel Air, exige que tous les médecins approuvent les pratiques thérapeutiques qu'ils préconisent, qui sont essentiellement issues de la psychiatrie biologique. Parmi celles-ci figurent les électrochocs. À ce moment-là, deux médecins, dont un se fait en particulier défenseur de l'approche de la communauté thérapeutique dans la clinique, refusent de tempérer. Le professeur Tissot réagit de manière autoritaire à leur rencontre et leur signifie leur déplacement. La presse locale va offrir un relatif large écho à ces événements-là, et ainsi qu'aux mobilisations de soutien qui seront organisées pour soutenir chacune des parties. En retour, les membres du réseau suisse romande alternative à la psychiatrie se font les chroniqueurs de ces événements en collectionnant les communiqués de presse, les lettres, les tracts et articles qui sont produits durant cette période, et ils vont les publier dans leur propre bulletin, publié le même mois, en juillet 1977. On voit ici l'un des articles qui a été découpé et gardé, et donc qui est disponible dans les fonds d'archives. On voit que son titre ici est passablement virulent, « La guerre psychiatrique aura-t-elle lieu ?» Eh bien, ce titre va être repris sur la couverture de l'un des bulletins du réseau suisse romande alternative à la psychiatrie. Cette fois, vous voyez ajouté d'une image. Avant de terminer donc sur ces quelques morceaux d'archives et d'histoire, j'aimerais revenir brièvement sur les événements qui suivent la mort d'Alain et dire quelques mots sur la création de la LUPSI. Alors, la LUPSI, elle a été créée, je l'ai dit, à l'initiative d'usagers et d'usagères qui, au terme d'une réunion du réseau d'alternatives à la psychiatrie qui a lieu à Genève en 79, abordent des professionnels de la psychiatrie, des médecins et des thérapeutes. Si ces usagers abordent ces professionnels-là, c'est évidemment pas par hasard. C'est parce qu'ils ont justement participé à ces mouvements de dénonciation et de contestation de la psychiatrie depuis un bon nombre d'années. En les abordant, leur demandant de se joindre à eux, ce qu'ils cherchent, c'est un soutien pour être plus fort et tenter de se faire entendre en tant que collectif face à une institution et des professionnels dont ils craignent d'être à nouveau, auxquels ils craignent d'être à nouveau confrontés en cas d'hospitalisation. À la mort d'Alain, ses amis appellent à un grand rassemblement. On a ici le tract ou le document qui est distribué pour appeler au rassemblement. Ce rassemblement vise à donner un dernier hommage à Alain, mais il vise aussi à exprimer une certaine colère. Et comme on peut le lire, ailleurs, il est là en face, à côté de l'horloge. Vous allez pouvoir le lire ensuite. Donc, il appelle bien sûr au rassemblement, à la solidarité, et en même temps, il dénonce et il pointe du doigt plusieurs services et personnes responsables, notamment le service dans lequel il a été interné, la direction médicale, et puis le conseil de surveillance psychiatrique. Une enquête pénale va être ouverte et aura lieu durant les années qui vont suivre. Elle débouchera sur un non-lieu, alors que le professeur Tissot sera démis de ses fonctions et, par le Conseil d'État et en revanche déplacé dans la recherche et un institut de recherche ou en tout cas un service de recherche va lui être mis à sa disposition. L'appel à rassemblement va susciter une mobilisation collective importante. La presse fait pas de 300 personnes, de 300 amis. Ce sont donc autant de personnes et de collectifs qui se solidarisent autour d'Alain et plus largement autour de la contestation de la psychiatrie. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai réussi à vous donner quelques petits aperçus de ce qu'on peut trouver dans les fonds et puis aussi comment ces documents nous permettent de dire quelque chose de cette histoire, en tout cas de la lire. C'est bien sûr que des ébauches, que des éléments. Mais mon but était de vous donner un petit aperçu. Et j'espère aussi que par là, j'ai un petit peu pu vous montrer comment se constituent des mobilisations et des collectifs qui gagnent l'ampleur. Voilà. Merci.
Peut-être juste une chose, s'il y a des questions précises.